Une réunion d'église, c'est important dans la vie, j'allais dire, d'une paroisse, d'une église, parce que bien que l'église soit théocratique, c'est-à-dire dirigée par Dieu, nous croyons que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, avait quelque chose à dire, quelque chose à apporter, une pierre à l'édifice. Et c'est important que nous puissions nous réunir, c'est important que nous puissions vous écouter. Parce que l'Église n'est pas dirigée par un gourou ou des gourous, mais elle est dirigée par le Seigneur, conduite par l'Esprit de Dieu. Et c'est important pour nous de vous écouter. Et c'est important aussi pour vous que vous sachiez un peu ce qui se passe dans le Conseil, ce que le Conseil décide, comment nous voyons les choses. Alors tout cela, nous le verrons cet après-midi après un repas en commun. Alors vous qui êtes là au premier culte, et on est heureux de vous y trouver, soit vous restez pour le deuxième culte, soit vous revenez à midi pour prendre le repas ensemble, ou soit vous revenez pour notre réunion d'église qui aura lieu à 14h30. Mais c'est vraiment important que vous y soyez, parce qu'il y a des décisions à prendre, néanmoins une décision très importante que nous allons voir tout à l'heure dans les annonces. Alors, cette assemblée générale, cette réunion d'église va arriver cet après-midi, et j'aurais voulu lire avec vous un texte qui va dans ce sens, qui va dans ce sens. Et je vous invite à lire ce texte avec moi. Il se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, et je vous propose de lire les versets 10 à 17. Un Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 17. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi je suis d'Apollo, et moi je suis de Céphas, et moi je suis de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Dieu Tout-Puissant, rends-nous maintenant attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par la prédication et par ta parole à discerner ta volonté, à conformer notre vie. Opère cette grâce en nous pour l'amour de Jésus-Christ. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. Sommes-nous une Église unie? Qu'est-ce que c'est qu'une Église unie? L'église de Corinthe n'était pas unie. Elle est même empoisonnée par des divisions. Cette Église est pleine de « moi-je ». « Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollo. Moi, je suis de Pierre. » Cette Église, c'est un vrai panier de crabes. Elle devrait, comme toutes les églises, ressembler à Jésus-Christ. Mais l'Église de Corinthe ressemble à la société qui l'entoure. Même le baptême est instrumentalisé. Le baptême n'est plus une grâce du Seigneur, ce n'est plus un geste de foi humble, mais le baptême est devenu un quartier de noblesse. Le baptême est devenu un argument. Moi, j'ai été baptisé par. Donc, mon opinion à moi, il prévaut. Paul en arrive à se réjouir d'avoir très très peu baptisé à Corinthe. Quel but Paul propose-t-il face à ces divisions ? Qu'il y ait, et c'est ce qu'il dit au verset 10, un même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi eux, qu'ils soient bien unis dans la même pensée, bien unis avec un même objectif. Alors je vous propose de laisser là l'église de Corinthe et d'essayer d'entendre la parole du Seigneur pour chacun de nous à la veille de cette réunion d'Église que nous allons vivre. L'Église est par nature un lieu de grande diversité. L'Église rassemble des hommes, des femmes, des familles, des célibataires, des riches, encore que je ne connaisse très peu, mais je pense qu'il y en a parmi nous, des pauvres, des intellos, des manuels, des jeunes, des moins jeunes, des chevelus, des chauves, des gens d'ici, des gens d'ailleurs. Elle rassemble des gens modernes, elle rassemble des gens classiques, et puis elle rassemble des gens de droite et des gens de gauche. Peut-être même des gens du centre. Bref, tout ce qui produit des cassures dans la société est rassemblé dans l'Église. Mais tout ce qui produit des cassures dans la société doit être aboli dans l'Église. C'est la nature même de l'Église de rassembler toutes ces personnes différentes. Et cette diversité que nous sommes, cette diversité témoigne que tous les humains sont aimés de Dieu. Que tous, nous sommes au bénéfice de la croix. Que tous, nous sommes au bénéfice du pardon et du salut. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier qu'il n'y a pas d'unité sans diversité. Il n'y a pas d'unité sans diversité. Et pour unir une telle diversité, il faut un facteur qui soit un facteur puissant. Ce facteur puissant d'unité, c'est Dieu qui nous le donne, par son Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce facteur d'unité. La diversité, c'est le contraire, je dis bien le contraire, de la division. La division surgit quand on refuse la diversité, quand on veut la réduire à soi-même, à ses opinions, à son point de vue. Moi, je. N'avez-vous jamais entendu ce genre de discours ? Si vous ne faites pas ça, je m'en vais. Autrement dit, c'est moi qui ai la vérité. Et si vous ne faites pas ce que je vous dis, si vous ne croyez pas ce que je vous dis, vous n'êtes pas comme moi. Et je ne peux pas m'entendre avec vous. Moi, je. Mais la diversité que nous sommes manifeste justement cette richesse de Dieu. La division appauvrit. La diversité ouvre au partage, à l'échange, à la reconnaissance. Et je ne peux me réjouir en tant que pasteur de cette église de voir la diversité. Quand je suis invité par des Africains, je mange africain et je m'en réjouis. Hier soir, j'étais invité chez une famille de l'Inde et nous avons mangé indien. C'était un peu épicé, mais c'était bon. La diversité, c'est une source de grâce. En tout cas pour moi. Et la division renferme chacun sur lui-même et sur ceux qui lui ressemblent. Elle rebâtit des murs que Christ a abattus. Souvenez-vous que notre foi est trinitaire. Notre foi est trinitaire. Un seul Dieu en trois personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. N'est-ce pas là l'exemple le plus haut de la diversité et de l'unité? Pour Paul, l'attitude corinthienne est contraire à la pensée de Dieu. C'est un comportement qui est inspiré par le monde et elle est le résultat d'un comportement prétentieux, le résultat d'un comportement égoïste qui fait fi de l'enseignement de Jésus à propos du royaume de Dieu. Jésus disait « Le royaume de Dieu est semblable à un petit enfant ». Et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais, frères et sœurs, nous poser quelques questions qui nous concernent. Comment la diversité peut-elle être un facteur d'unité? Comment la diversité peut-elle être une richesse pour l'Église d'Ozoir? Premièrement, je dirais que l'unité n'existe que comme conséquence de la diversité. Sans diversité, il n'y a pas d'unité. Il n'y a que l'uniformité. Et on ne veut pas de ça dans l'Église. L'uniformité, c'est l'armée. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait votre service militaire. Les plus âgés, ceux qui ont mon âge, se souviendront. En tout cas, quand j'ai fait l'armée, j'ai fait 16 mois. C'est long, 16 mois. C'est l'uniformité à l'armée. On a tous la même coupe de cheveux. On a même tous le même béret. Tous le même treillis. Tous les mêmes chaussures. Et on est en ligne. Je me souviens d'un adjudant qui disait toujours...
Garde à vous! Je veux voir qu'une tête! Puis regardez comme ça. Il y a un bleu là-bas, faut se pousser!
C'est ça l'uniformité. C'est ça l'uniformité. Mais c'est pas ça dans l'Église. L'unité, c'est la reconnaissance de ce que tu apportes et que moi, je ne suis pas capable d'apporter. Parce que moi, je suis un être humain et je ne peux pas tout apporter dans l'Église. Et ce que je n'apporte pas, toi, tu l'apportes. J'ai besoin de toi. Et tu as besoin de moi. Parce que nous sommes différents. Si tu étais comme moi, j'aurais pas besoin de toi. Considérez-vous les uns les autres, dit Paul. Ne soyez pas obsédés par vous-même. Regardez celui ou celle que le Seigneur vous donne comme frère. Regardez celui ou celle que Dieu vous donne comme sœur. Voyez-vous ce que celui ou celle-là apporte à la vie de l'Église ? Que toi, que vous, vous ne seriez pas capable d'apporter. Ce qu'elle vous apporte, cette personne, personnellement, que vous ne pourriez pas donner vous-même. Est-ce que vous le voyez, cela ? Sommes-nous reconnaissants à Dieu pour cette différence qui fait que précisément là où vous êtes, sans capacité, maladroit, il y a ce frère, il y a cette sœur qui sait faire cela et qui le fait bien. Êtes-vous reconnaissant à Dieu pour votre frère, pour votre sœur? C'est ça que Paul exprime quand il évoque le ministère complémentaire d'Apollo. C'est ça que Paul dit. Explique quand il dit « Je plante, il arrose et Dieu fait croître. » Hélas, trois fois hélas, la bonne volonté ne suffit pas. La division, la déchirure surgit de l'immaturité. Cette immaturité que Paul a bien vue au chapitre 3, il le dit au chapitre 3, le problème avec vous, Corinthiens, c'est que vous êtes encore charnels. L'immaturité, frères et sœurs, c'est une pathologie spirituelle qui se manifeste par la perte de conscience du besoin que j'ai de l'autre. Un comportement qui est marqué par l'autosuffisance. Alors, j'aimerais juste te poser une question. Juste une, à la veille de cette réunion d'église. Laisse-moi te dire, si tu es incapable ce matin, si tu es incapable de mettre des mots pour dire en quoi tu as besoin des autres, eh bien, mets-toi vite à genoux. Mets-toi très vite à genoux parce que tu présentes des symptômes inquiétants. C'est comme cela que se manifeste l'immaturité. Par l'égoïsme. Moi, je. Par le rejet. Par le désir à tout prix d'être comme l'autre, par le désir de prouver que je suis le meilleur, par la rigidité, en imposant aux autres sa propre norme. Frères et sœurs, nous sommes tous et toutes des pécheurs pardonnés. Nous vivons tous du don de la grâce. Et le premier parmi nous, c'est celui qui sert les autres. La première parmi nous, c'est celle qui sert les autres. L'unité dans la diversité C'est une conséquence du commandement « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Et l'exhortation de Paul, « Je vous encourage, frère, par le nom de Jésus-Christ, à tenir un même langage. » Ce langage commun, c'est le langage du Christ. C'est le langage de la croix. C'est la langue que nous apprenons à parler en apprenant à connaître la croix. Le langage de l'amour vrai. Pas du sentimentalisme, pas le tout émotionnel. Notre unité dans l'Église doit s'enraciner. C'est ce que Paul écrit aux Corinthiens quand il dit « une même pensée dans un même dessein ». Mais quel dessein ? Cette pensée, c'est la pensée du Christ, évoquée au chapitre 2, verset 16. Cette pensée du Christ qui nous dégage des ornières de la pensée de la société. En acceptant d'être, aux yeux des autres, faible. En acceptant d'être, aux yeux des autres, fou. Mais c'est la voix de Dieu, frères et sœurs. C'est la voix de Dieu dans ce monde. La pensée du Christ, c'est désirer être dans ce monde comme Jésus l'a été. Ce Jésus pour qui une veuve misérable donne à Dieu infiniment plus qu'un riche, pour qui un gosse est plus proche du royaume de Dieu qu'un religieux. Le dessein qui unit, c'est le projet de Dieu. Ce projet de Dieu, c'est de manifester dans le monde cette pensée du Christ, qui apporte sa sagesse, sa vérité, son salut. Il appelle les hommes au salut, les provoquant par sa faiblesse, par sa folie. Une église se divise quand elle abandonne la pensée du Christ. Elle se divise quand elle abandonne sa mission. Et nous serons, frères et sœurs, ne le perdons jamais de vue. Nous serons au grand risque de la division. Le jour où nous déciderons de vivre pour nous-mêmes, pour que notre Église nous plaise à nous-mêmes, pour que nous fassions dans l'Église ce qui nous arrange, peu importe si ça dérange les autres, ça m'arrange moi. Je prie pour que demeure la parole de Dieu. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes chrétiens. Et je prie pour que nous soyons tous et toutes renouvelés dans cette grâce. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce qu'elle nous enseigne. Et nous voulons te demander de nous garder, Seigneur, de nous garder unis en toi, pour que ceux qui nous entourent voient que le Christ habite en nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.